C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Elle a fréquenté quelque peu les excès jadis, a adoré les tissus, les tendances, peut-être davantage de clinquants. Elle était déjà connue au grand écran, adorait le métier d'organiser et de raconter la mode. Elle était dans la lumière, Nicole Bordelot. Selon Beau Tableau, certains jours, elle se sentait nauséeuse et une douleur sourde lui martelait le côté droit. En 96, la simple odeur de café lui donnait mal au cœur. Et puis, il y a cette fatigue. Ce qu'elle apprendra changera sa vie. Nicole Bordelot est suivie aujourd'hui par près de 90 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle a publié une douzaine d'ouvrages sur le yoga, la méditation. Elle réussit à faire méditer des foules, même à l'heure de l'hypercathodique. C'est une femme sereine qui inspire. On prend un temps d'arrêt avec Nicole Bordelot pour la santé.
Nicole Bordelot, bonjour et bienvenue à notre émission. Ça fait un grand, grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui.
Oh, c'est gentil, je suis contente d'être là. Merci Sophie.
Alors, vous allez être là pendant une heure et demie, vous allez avoir des chroniqueurs qui vont venir, vous pourrez poser des questions. Et notre docteur Baruel va être là aussi pour pouvoir aussi éclairer, amener sa petite touche de médecin. Alors, on peut voir dans votre parcours qu'il y a comme deux Nicole Bordelot. Il y a le avant et l'après. L'avant, c'était la femme qui était dans la mode, c'est ça?
Dans la mode, dans le monde des médias, oui.
À la télévision, voilà. Qui travaillait. Comment elle était l'avant?
Ah, pas tellement différente. Peut-être de l'extérieur, oui, mais intérieurement, il y a bien entendu une évolution, là, mais je me reconnais quand même. Dans le monde de la mode, j'ai retrouvé la lumière, la créativité, la beauté, mais pas juste la beauté en apparence. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Pour moi, c'est un milieu innovateur. J'ai débuté en mode quand la mode québécoise était en émergence. J'enseignais au Collège La Salle, donc de pouvoir se renouveler, se réinventer continuellement, parce que la mode change aux 6 mois, aux saisons, ça m'a... fait connaître des gens qui n'hésitaient pas à se questionner, à faire table rase du passé. J'ai beaucoup appris dans ce métier-là et je crois que ce que j'ai appris va me servir pour la Nicole d'après, comme vous l'avez nommée.
Alors, la Nicole dans la mode et dans le monde de la télévision, est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce qu'elle aimait ça, ce monde-là, d'être toujours comme ça sur les plateaux, en coulisses, aller voir... est-ce qu'elle aimait ça?
Oui, beaucoup. Parce que il y a eu une Nicole avant celle de la mode. Mm-hmm. Donc, et je crois que celle de la mode, véritablement, c'était un peu pour rendre hommage à ma grand-mère. Quand j'étais petite, ma grand-mère qui vivait en Abitibi avait peu de moyens, mais c'était une artiste qui s'exprimait à travers ses mains. Et je me rappelle que quand je mangeais mes céréales le matin, avant que je puisse en prendre une bouchée, elle me disait, je mangeais des Rice Krispies. Elle me disait, attends. Écoute ce bruit. Elle disait ça ressemble à du taffetas. Et elle m'expliquait qu'est-ce que c'était que le taffetas, que c'était une étoffe qui faisait un bruit. Elle m'a ouvert à tout ce monde et elle m'a appris que la mode, ce n'était pas qu'une question de vêtements, c'était une expression de soi et qu'on s'habillait non pas pour bien paraître, mais aussi pour apporter de la joie aux autres à travers la couleur que l'on portait, à travers les vêtements que l'on choisissait. Donc, elle m'a ouvert à ce monde. Et quand je suis arrivée dans le milieu de la mode, c'est ce que j'ai cherché. Il y a bien entendu d'autres côtés de la mode que j'ai vus qui me plaisaient moins, mais je me suis concentrée sur ce
Donc,
que j'aimais.
Donc, une recherche dès lors du bonheur, d'une quelque chose de beau, de beauté, mais de plus d'une beauté extérieure à ce moment-là.
Oui, une lumière. J'ai une lumière, véritablement. Et c'est intéressant que vous dites que je recherchais la beauté parce que depuis que je suis toute petite, ce que j'ai toujours recherché, que je continue de vouloir cultiver en moi, ça n'a jamais été le bonheur. Je trouve que le bonheur, c'est très chargé et c'est quelque chose qui va et vient. Mais c'est ce que j'ai toujours recherché, même petite, c'est la paix intérieure. Donc, mes endroits préférés, c'était l'église et la bibliothèque. Et je voyais là des gens avec des visages paisibles. J'aimais le silence déjà. Alors, ça continue.
Le silence qui parle?
Le silence qui parle, un silence qui est habité, qui ne nous est pas imposé, oui.
Alors, il y a eu toutefois... une prise de conscience du corps et de l'esprit. En fin de compte, c'est le corps chez vous qui vous a envoyé des alarmes. Et ça, ça a été à l'âge de 36 ans. Vous aviez à peu près 36 ans, c'est ça?
Ça a été diagnostiqué à 36 ans, mais je devais être porteuse du virus de l'hépatite C probablement une décennie avant. Donc, oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est... Quand diagnostiqué, est-ce qu'il y a des signaux avant? Avant qu'on vous, on vous dise que, bon, finalement, vous avez l'hépatite C, comment ça se passe dans votre vie à ce moment-là?
Bien, tout d'abord, quand moi j'ai été diagnostiquée, on ne nommait pas l'hépatite C. On disait l'hépatite non A, non B. Donc, c'était encore là, à ce stade-là. Mais ça faisait longtemps que mon corps, il y avait des symptômes physiques et les symptômes physiques étaient une fatigue importante, difficulté à dormir, difficulté de digestion, confusion aussi au niveau du mental, un cerveau qui est comme embrumé, des crises inflammatoires dans mes articulations et tout cela a commencé vraiment tout petit. Là. Je crois que pendant une décennie, je n'avais que peu de symptômes, mais à un moment donné, ça s'est éveillé, réveillé. Et là, le virus était vraiment en pleine émergence, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, oui, ça a été tout un choc, même si je voyais des symptômes. On me disait, c'est des problèmes de digestion, vous avez de l'arthrite comme vos grands-mères, etc., etc. Mais quand on m'a donné le diagnostic de l'hépatite C en 96, là, on a nommé le virus en 96, là, ça a été vraiment tout un choc.
Et ça a l'air qu'avant d'avoir ce diagnostic, vous étiez physiquement comme un crabe, comme votre corps était en train de plier sur vous-même. Décrivez-moi ce qui s'est passé. Physiquement, vous étiez pas souple, les muscles n'étaient pas souples.
Non, mais de toute façon, je ne sais pas si cela a trait à voir avec l'hépatite C, là, mais je n'étais pas quelqu'un de très souple physiquement. J'étais quand même quelqu'un qui était assez rigide. Je faisais peu d'exercices physiques, donc alors peut-être que ça jouait dans la balance. J'avais commencé tout de même à faire un peu de yoga et un peu de... mais rien de très sérieux, donc avant l'hépatite. Mais ce qui a été pour moi, je pense, le point tournant, c'est que d'être diagnostiquée avec l'hépatite C avant le scandale du sang contaminé, ce n'était pas une maladie qui attirait la compassion. J'étais dans un monde d'apparence, dans un monde de la mode, et l'hépatite C avec le sida, c'était en bas de liste des maladies que tu voulais porter.
Donc,
véritablement.
Aucune compassion envers les autres, les gens étaient... Aucune empathie.
Et les gens avaient peur. C'était considéré comme la maladie des toxicomanes et des prostituées. Là. Les gens avaient peur. On connaissait peu sur le virus. Comment ça s'attrape? Est-ce qu'en te serrant la main, je peux attraper? Un peu comme le sida, d'ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a eu, au départ, là, cette prise de conscience-là chez moi que, OK, non, c'est véritablement une maladie là, qui... Mais rapidement... Je dis rapidement, là, parce que ça a été peut-être un an, deux ans, trois ans. Là, on a commencé à recevoir de l'information et les gens, petit à petit, se sont éduqués. Moi-même, j'ai été capable d'en parler plus librement. Donc, éventuellement, bien, ça s'est bien passé.
Et comment agit le médecin quand on... Est-ce que ça prend plusieurs étapes? C'est-à-dire, vous allez, est-ce une prise de sang? Est-ce que ça se fait au bout de trois semaines, le résultat? Comment ça s'est passé dans le cabinet?
Ah, mais ça a été très long parce que... Encore une fois, l'hépatite C n'avait pas été nommée comme telle. Donc, pendant des années, c'était hépatite A, hépatite non A, non B. Donc, c'était dans le monde de l'hépatite, mais on n'arrivait pas à cibler exactement. Donc, ça a été très long, peut-être, je ne sais pas, cinq ans. Et à un moment donné, à travers un test de sang en 1996, là, on a diagnostiqué l'hépatite C. Je me rappelle de ce jour-là. Je m'en rappelle comme si c'était hier, quand mon médecin généraliste m'a téléphoné, puis elle m'a dit, vous portez un virus qui s'appelle l'hépatite C, pour lequel, pour l'instant, je n'ai rien à vous offrir comme traitement. C'est une maladie chronique, c'est une maladie mortelle. Je transfère votre dossier à un hépatologue à l'hôpital Saint-Luc. Là, c'est toute ta vie telle que tu l'as connue, que tu l'as aimée, qui s'effondre à tes pieds, c'est certain.
Juste le fait de dire une maladie mortelle.
Oui, sauf que la vie est une maladie mortelle.
Parce qu'après,
l'oublie.
Parce que vous vous rattrapez dans vos livres depuis en disant qu'il faut vivre le présent. Et aussi, vous, votre mantra, c'est une journée à la fois, une minute à la fois presque. Parce que Nicole Bordelot, c'est ce que vous prêchez depuis des années à travers vos livres, à travers qui vous êtes.
C'est la maladie qui m'a enseigné ça. C'est pas moi, c'est vraiment la maladie qui m'a enseigné à vivre une journée à la fois, à faire tout ce que je pouvais pour que mon futur et mon avenir soient le plus agréable et le plus doux possible, mais d'être capable de lâcher prise devant ce grand mystère qu'est la vie. Donc, ça a été un cadeau mal emballé, l'hépatite C. Ça a été ma colocataire pendant 30 ans. Elle a été d'une exigence fou et d'une rigueur et extrêmement demandante. Le moindre écart, elle me présentait la facture, le moindre écart. Donc, pendant 30 ans, ça a été une cohabitation.
Ça veut dire 30 ans de cohabitation, comment est-ce que vous êtes obligé de changer votre façon de manger? Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai tout changé. Dans un premier temps, j'ai fait venir un livre qui existait et qui était publié à Londres par un hépatologue. C'est le seul ouvrage sur lequel j'ai pu mettre les mains, qui était scientifique. Et j'ai appris tout ce que le virus aimait. Et tout ce que le virus aimait, j'ai coupé ça de ma vie. Donc, l'alcool, alors j'ai plus jamais pris une goutte. Je ne buvais pas beaucoup, mais...
Depuis 96?
Non, plus une goutte, jamais.
On fait une pause. On revient tout de suite après. En 96, la première étape, Nicole
Bordelot, goutte d'alcool.
Plus d'alcool.
Plus d'une goutte d'alcool. Et je me rappelle, je n'aimerais pas son nom, là, parce que c'est un médecin très connu. Il m'a dit, mais tu peux prendre un verre de vin de temps en temps, là, parce que le pire qui va arriver, c'est que tu vas vivre moins longtemps. J'étais comme, non, moi, je ne prends pas cette chance-là. Ouh. Mais non, moi, j'ai...
Alors, plus d'alcool.
Plus d'alcool.
Et ensuite?
Bon, j'adorais manger des croissants, des fromages, tout ce qui alourdissait le foie, qui demandait... J'étais déjà végétarienne.
Parce que c'est le foie. Déjà, vous étiez avant?
Oui, j'étais déjà végétarienne, donc ça n'a pas été... Mais tout ce qui demandait un travail supplémentaire à mon foie... Bon, je fumais. J'ai cessé de fumer, bien entendu. Mais surtout le stress, parce que c'est le système immunitaire, donc c'était surtout ça là, qui était ma grande préoccupation, d'essayer le plus possible de calmer l'angoisse.
Mais l'angoisse venait du fait du diagnostic?
Oui, du fait du diagnostic.
Vous avez dit, et ça résonne finalement, les paroles restent dans la tête quand on nous dit « vous avez une maladie mortelle ».
Oui.
C'est beau qu'on nous dise qu'on est mortel, on le sait tous, mais de dire « vous avez une maladie mortelle », ça continue à résonner dans votre tête.
Oui, oui, c'est certain. Il y a ce facteur-là. Il y a le facteur que le sommeil était mon sommeil à moi, parce que probablement que le médecin va le confirmer, chaque patient est différent. C'est pas tout le monde qui a l'hépatite C qui va vivre les mêmes symptômes. Moi, ça a beaucoup affecté mon sommeil. Donc, il a fallu que je trouve des techniques de relaxation dans la journée qui ne glisse pas mon corps dans un sommeil profond, parce que je ne voulais pas que mon corps ait à se réveiller 2-3 fois dans la journée. Parce que
donc, c'est là que ça a commencé, l'entrée de la relaxation,
relaxation,
la méditation, du bouddhisme. C'est là que vous connectez avec cette science naturelle.
Oui. Oui, le bouddhisme, ça a été un immense cadeau dans mon cheminement de la guérison, parce que la première chose que j'ai apprise, c'est que la souffrance était optionnel. La douleur était inévitable. En tant qu'être humain, nous allons tous vivre des douleurs, physiques, mentales, et j'en vivais. Mais la souffrance et cette résistance-là à ce qui est, et c'est ce pourquoi moi, pourquoi ce moment-ci, qu'est-ce que j'ai fait, etc., qui ajoute une couche de résistance. Alors, douleur plus résistance égale souffrance. Et à travers le bouddhisme, j'ai compris que je n'étais pas seule, que ça faisait partie de mon chemin. Ce n'était pas un obstacle sur mon chemin.
Parce que, Nicole, dans le bouddhisme, on dit toujours que les choses ne nous arrivent pas pour rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous achetez ça dans le sens qu'on dit que, au niveau de la religion bouddhiste, que finalement les choses sont là pour vous apprendre quelque chose?
C'est sûr que si on dit ça à quelqu'un qui vit le suicide d'un enfant, c'est révoltant de se faire dire ça.
Oui.
Moi, la façon dont j'ai vu cet enseignement-là, c'est que nous avons l'opportunité, seul à notre propre rythme, il ne faut pas se l'imposer, se faire violence, nous avons une opportunité au cours de notre vie de prendre nos épreuves et d'en faire des expériences. Donc, mais ça n'empêche pas le chagrin, la révolte, la colère, la peur, qui sont des passages inévitables.
Est-ce que c'est douloureux d'essayer de chasser la culpabilité? Parce que vous l'avez prononcé,
oui.
Je me sens coupable.
Parce que, bon, j'en ai parlé, l'hépatite C, pour moi, elle est survenue après 5 ans de toxicomanie quand même. Donc, j'avais ma part de responsabilité. On n'a jamais pu prouver que ça venait de là. Mais intérieurement, j'avais ma part de responsabilité. Et cette culpabilité-là, elle était entre moi et mon corps. Alors, c'est à lui que je devais demander pardon, à personne d'autre. C'est à lui que je devais lui demander comment est-ce que je peux réparer le mal que je t'ai causé. Voici ce que je suis prête à faire. Je vais cesser de fumer, je vais cesser de prendre tout alcool, je vais changer ma nourriture, je vais me reposer, je vais faire du mieux que je peux. Et toi, fais du mieux que tu peux pour te guérir. Et ensemble, les deux, nous allons voyager ce chemin de guérison.
Nicole Bordelot, c'est pratiquement une métaphore de l'émission que vous venez de faire, parce qu'on essaie à partir de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vécu, de proposer une espèce de cocktail santé où on serait mieux avec soi, peut-être avec le corps, puis en tout cas, vous aidez à ce qu'on soit mieux avec les autres. On retrouve un peu plus de gens dans l'émission qui vont venir compléter votre parole santé. Cette discussion sur le bouddhisme, la méditation, on a pensé faire appel à Alain Promkin, qui est théologien. Bonjour Alain Promkin.
Oui, bonjour Benoît.
Très content que vous soyez des nôtres et vous savez qu'on est en compagnie de Nicole Bordelot. D'ailleurs, elle connaît bien le bouddhisme et elle avait pratiquement la première question à vous poser parce que le bouddhisme, au fond, c'est pas exactement une religion, c'est ce que vous dites, Nicole Bordelot.
Ben, certains diront que c'est une religion, mais pour moi, c'est une philosophie. Mmh. C'est véritablement... Ce que je retiens du bouddhisme, c'est l'entraînement de l'esprit, dans un premier lieu. Donc, c'est ce qui m'intéresse.
Donc, c'est sa définition. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec le fait que ce n'est pas exactement une religion, mais peut-être plus une philosophie, Alain Promkin?
Oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec Mme Nicole.
Oui.
Parce que pour qu'on ait une religion, il faut adorer un Dieu. Ce n'est pas le but du bouddhisme. On n'adore pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme tel. Mme Nicole parle aussi d'une philosophie. Oui et non. Oui. Mais il faut faire attention, parce que la philosophie, pour moi, est un concept purement européen. Tandis que dans le bouddhisme, on n'est pas dans un concept européen. On est dans un concept plutôt de pensée orientale. C'est peut-être la nuance, mais pour moi, on n'est pas dans le registre. Certains vont dire que c'est un registre religieux parce qu'on a des rites, parce qu'on ne sait pas.
Mais non, on n'est pas là. C'est un autre concept, c'est une autre manière de l'aborder de toute façon. Est-ce qu'on subit beaucoup d'influence du monde oriental comme ça, Alain Promkin?
Ben, dans le bouddhisme, oui. On est vraiment dans une pensée orientale. Et on est dans une pensée, parce que ce qu'il faut toujours avoir dans le bouddhisme, c'est que les gens voient qu'il n'y a qu'un seul bouddhisme. Le bouddhisme, c'est vaste, c'est un monde immense. Là, on parle de peut-être 300 millions de personnes sur Terre qui vont pratiquer le bouddhisme. On sait que le bouddhisme provient de Siddhartha Gautama, dit l'éveillé, certains vont l'appeler le Bouddha, qui est né 5 siècles avant Jésus-Christ, et qui, lui, a dit, écoute, il faut s'éveiller. Est-ce que à la souffrance, à la cessation de la souffrance, bon, et tous les chemins qui suivent, puis c'est sûr que Mme Nicole va pouvoir vous expliquer ça. Mais il y a eu 3 voies principales dans le bouddhisme.
D'accord.
Il y a la voie que tout le monde au Québec connaît, qui est celle du Dalai Lama. Qui est
la voie très connue, n'est-ce pas?
Très connue.
C'est la référence.
Qui est la référence. Mais il y a aussi les voies principales qu'on va retrouver au Vietnam, qu'on va retrouver en Birmanie, qui est ce que j'appelle un bouddhisme plus près des racines, qu'on retrouve là, qui est la petite voie, ou c'est la grande voie. Mais il y a plusieurs écoles de pensée dans le bouddhisme. Il ne faut pas voir le bouddhisme comme la religion catholique.
Ouais.
Voici le pape et le reste. C'est pas ça.
J'oserais dire, c'est une religion pratiquement un peu plus démocratique. Là. Les gens peuvent faire évoluer un peu les rites. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui et non.
Non?
Parce
OK.
Que ça a évolué d'une façon... Je vais y aller dans...
Allez-y.
Dans une forme, si on pense à la Birmanie actuellement, parce qu'il faut parler...
Qu'on entend parfois comme le Myanmar.
Le Myanmar, mais c'est le nouveau.
C'est le nom militaire, on ne l'aime pas c'est trop, ça. On préfère la Birmanie.
Le nom militaire.
Oui.
Bon, alors ce qu'on sait là-bas, c'est que tu as une montée du fondamentalisme bouddhiste.
Mm-hmm.
Ça veut dire quoi? Que le bouddhisme, là-bas, en Birmanie, où là, c'est vraiment regroupé, t'en as un qu'on appelle Ashin Wiratu, qu'on appelle le grand W, là, qui a fondé l'organisation Mabata, qui est le comité pour la protection de la race et de la religion. Et lui, il fait des déclarations incendiaires, puis il est suivi, il a même été mis un petit peu à l'index en Birmanie, mais il revient toujours par la bande. Il dit, on est quoi, nous? Comme le poisson-chat en Afrique, les musulmans se reproduisent très vite et se mangent entre eux. Le bouddhisme, une armée dont naissent des combattants, il doit agir comme un rempart contre l'islam. Là, on est dans une forme militaire. Et pour moi, c'est personnel,
ouais.
Ça n'a aucun rapport avec le bouddhisme.
Monsieur Promkin, d'habitude, ça arrive jamais qu'on attribue ce genre de manière de pratique au bouddhiste. C'est particulier. C'est bien de mettre la lumière là-dessus.
Oui, et ça existe. Parce que pourquoi j'en parle, c'est qu'en fin de semaine, il y a des villages Rohingyas qui sont des villages musulmans qui ont été rasés en Birmanie.
Ouais.
Mais tu as une montée du fondamentalisme. Et souvent, on va utiliser les politiciens, les gens un peu plus véreux vont utiliser la religion pour arriver à leur fin. Mais d'autre part, tu as beaucoup de bouddhistes là-bas qui dénoncent cette situation, qui disent non, c'est pas ça le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est d'aider. Puis comme on dit toujours, puis Nicole va sûrement en parler, des poisons dans le bouddhisme, c'est l'ignorance, la colère, l'avidité. Mais t'as ça aussi, le bouddhisme, c'est comme on dit, c'est immense comme monde.
Oui.
Mais il y a ça, fait qu'il y a ces gens-là, comme ce M. Ashin Wiratu, qui est une figure charismatique en Birmanie, ben, les gens vont essayer de l'écarter. Le bouddhiste va dire non, ce n'est pas ça du bouddhisme. Donc on a ces tensions-là. Le Dalai Lama est sous d'autres tensions.
Oui,
lui, il est la voie du diamant, il y avait la Chine.
Le Tibet, ceci dit, c'est aussi un pays qui tente de s'affranchir. Il y a une idée nationaliste là-dedans aussi. Mais la pratique est-elle plus douce? Je ne sais pas, moi, c'est la perception que j'ai.
Elle est plus douce, mais elle est spéciale. Parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau du Dalai Lama, où on parle plutôt, qui a commencé plus dans les années 800-900, là, il y a le Dalai Lama va se réincarner. Et souvent, il va dire, je vais me réincarner. Et on a toujours eu des lignes masculines. Mais là, il a dit, un instant, avec ce qui se passe en Chine, avec ce qui se passe là, il n'a pas exclu que je me réincarne en femme.
Ah bon, ben c'est presque une avancée.
Ben, moi, ce que je perçois, c'est que le bouddhisme n'est pas quelque chose de figé. Mm-hmm. Les gens voient le bouddhisme, c'est figé. Pis c'est... Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est en évolution. C'est quelque chose qui pense, comme dans les communautés bouddhistes, les femmes ne pourront jamais diriger un monastère. Ça prend toujours un homme pour diriger un monastère. Le bouddhiste, ils vont dire à certains endroits, on est contre le mariage entre conjoints de même sexe. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui vont dire, on est contre l'avortement. Ouais. Ils vont dire, non, c'est plus au niveau de l'hindouisme qu'on a des percées, mais là, on ne fera pas les
ouais, voilà.
Mais
on n'y arrivera pas. Mais il y a des conservatismes qui existent dans toutes les religions. Vous venez de nommer quelques conservatismes bouddhistes.
Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le bouddhisme, il y a des êtres humains. Mm-hmm. Partout où il y a des êtres humains, on va vivre ces montées-là d'extrémisme. Ouais. Ce n'est pas parce que nous sommes Américains. Maintenant, les Américains ont Trump. Alors, un peu partout, là, où l'être humain est, il va prendre des philosophies et les mettre à son avantage. Donc, parce que Siddhartha Gautama ne voulait pas fonder une religion ni une philosophie. Non. Il a émis ce qu'il a vu à travers l'étude et l'entraînement de son esprit. Puis il a dit, ne croyez pas ce que je dis. Faites-en l'expérience.
Oui.
Alors là, voilà.
Ben avec Nicole Bordelot, on a évidemment tout un lieu de la belle expérience en terminant, si possible, parce qu'on pourrait passer des heures avec vous.
Ah ben,
on a beaucoup de plaisir. Mais non, on ne peut pas aujourd'hui.
Okay.
Mais la place de la méditation dans le bouddhisme, est-ce qu'elle est grande?
Pas dans toutes les formes de bouddhisme, non. C'est ça qui est intéressant. En bouddhisme zen, oui, zazen, c'est au cœur. Mais dans certaines formes de bouddhisme, non, elle n'est pas centrale.
Vous avez le même avis, cher Alain Pronkin.
Oui, ça dépend toujours des différents types de voies. Il y a tellement de facteurs. Oui. Ça dépend des zones géographiques. Mais il y a une chose qui est importante, puis je voudrais le dire à nos auditeurs à la toute fin.
Oui.
J'ai rencontré des gens qui ont quitté, évidemment, le Vietnam, qui ont quitté les pays pour venir s'établir au Canada, puis c'était des réfugiés, là, des boat people.
Ouais.
Et tout ce que tout le monde me dit, s'il n'y avait pas les temples bouddhistes, je serais morte pour la raison suivante, c'est qu'on n'avait pas d'argent, on était pauvres, et c'est là qu'on pouvait aller s'alimenter.
Donc, encore une fois, les religions, certaines, peuvent être des refuges en temps de guerre, etc.
Pour les enfants, et on sauvait des vies humaines, et ça, il faut le rappeler qu'il y a un travail important qui est fait dans les pagodes.
Mm-hmm.
On a fait survivre des enfants qui sont venus ici par la suite, comme Bobby Paul, des gens qui ont eu ça extrêmement difficile. Ils vont se souvenir encore aujourd'hui, pourtant il y avait 9-10 ans à cette époque-là, que les pagodes leur ont sauvé la vie.
Alain Pronkin, théologien, merci encore une fois de votre éclairage.
Merci beaucoup.
Bienvenue et bonne journée.
Bonne journée. Merci.
Stéthoscope.
Stéthoscope, c'est un moyen d'écouter d'un peu plus près la santé d'un point de vue social ou psychologique. Aujourd'hui, on est influencé par Nicole Bordelot qui non seulement a écrit, réfléchi, promu la méditation, le yoga, mais a beaucoup réfléchi aussi sur le deuil. J'ai envie de vous partager aujourd'hui une histoire toute personnelle de deuil de Jean Lafontaine, qui est psychologue au service de psychologie et d'orientation de l'Université Sherbrooke. Le texte, je vous livre ainsi. Recommencer à vivre après un deuil. Le récit que vous allez lire s'inspire de faits vécus. Qui sait? Peut-être que vous-même vous vous reconnaîtriez. J'ai le goût de partager avec vous un événement que j'ai vécu il y a quelque temps. J'avais une sœur qui était mon aîné de 2 ans, et nous étions très proches. Bien sûr, nous nous disputions parfois. Tous les sœurs, tous les frères le font, mais tout rentrait dans l'ordre rapidement. Il y a 1 an, elle est décédée dans un accident d'auto. Ce fut un choc terrible pour moi. Je perdais d'un coup une sœur et ma meilleure amie. Ça m'a permis, ou plutôt ça m'a pris quelques jours pour réaliser cette disparition. Cette nouvelle était inattendue d'une part, et toutes les démarches pour ses funérailles, d'autre part, prenaient beaucoup de mon temps. Ce n'est que quelques jours après les funérailles que j'ai senti ma douleur. J'étais bouleversé, je pleurais beaucoup, je me sentais seul aussi. Je me disais que s'il était là, elle me consolerait, car c'était à elle que je me confiais le plus. Ce sentiment de vide et de tristesse a duré un bon moment. Lorsque je rentrais à la maison, je tournais en rond, comme si je la cherchais. J'avais moins d'intérêt pour les choses que nous faisions ensemble. Un soir, aux nouvelles à la télé, il était question d'un accident causé par un chauffeur ivre. Le journaliste interrogeait le père de la victime et celui-ci exprimait sa colère envers la personne responsable de l'accident. Cet événement me mit en contact avec ma propre colère. Pour la première fois, je ressentais l'injustice de sa mort. Je me suis mis à en vouloir à l'autre conducteur. Je le rendais responsable de la mort de ma sœur. J'aurais voulu lui faire quelque chose pour le faire souffrir autant que je souffrais. Je voulais qu'il se sente au moins coupable de ce qu'il avait fait. Puis, peu à peu, ma colère s'est estompée. Une amie de ma sœur s'est rapprochée de moi au cours de cette période. Elle m'a réconforté et supporté dans les moments de déprime. Nous sommes devenus amis. Nous pouvions parler de ma sœur car nous la connaissions et nous l'aimions. Avec le temps, j'ai repris goût à la vie, à mes études et à mes activités préférées. Aujourd'hui, lorsque je repense à ma sœur, je me sens plus sereine. Il y a quelque chose comme des moments où je m'ennuie d'elle, mais c'est passager. Quelquefois, je me surprends à faire ou à dire des choses qu'elle faisait. Cela me faisait plaisir. Cela me fait plaisir, car je la sens alors de nouveau avec moi.
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. To your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face, who can help you? Just a pretty face, who can help you? Get your shit together. Baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
Me all along, I risk and no gain, and I'm a fool to love the pain. Don't leave me
Avec Nicole Bordelot, on tente toutes les déclinaisons de la santé, qu'elles soient politiques, religieuses, mais aussi sexuelles. Hein? Donc, Nicole Bordelot, ça vous va si on entre dans ce terrain?
Oui, absolument. Là, c'est une dimension importante de l'être humain, autant que sa spiritualité. Oui, absolument.
Bon, très bien. Et pour y arriver, Sonia Boucher, sexologue à domicile notamment, est avec nous. Bonjour, Sonia.
Bonjour, Benoît. Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Alors, vous connaissez Nicole Bordelot, bien sûr.
Oui, surtout, je me suis informée suite à ton invitation.
Merci de la transparence. Sonia donne toujours l'air juste une professionnelle. C'est comme ça. Donc, on peut avoir toutes sortes de manières d'aborder la sexualité, mais il y a quelque chose que vous aimez déconstruire et qui serait important de déconstruire dans la sexualité, c'est-à-dire la performance. Est-ce qu'on peut vivre notre sexualité au-delà de la performance, même de la violence, là, parfois, qu'on a tendance à démontrer? C'est une grosse question, ça, quand même.
Oui, quand même. Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs volets de réponse. On va essayer d'en prendre un à la fois.
Prenez-le.
D'abord, première chose, c'est de savoir comment ça s'installe, cette anxiété-là de performance, ou ce désir de performance. Évidemment, c'est lié au milieu de la personne, sa construction, son éducation à la sexualité. Mais pour le déconstruire, il faut voir tous ces volets. Mm-hmm. Donc oui, il y a la performance au niveau du physique, mm-hmm. au niveau du modèle idéal de beauté physique qui est véhiculé.
Bien sûr.
Déjà, ça, c'est une performance extérieure physique qui est exigée puis qui est exigeante. Mm-hmm. Ensuite, évidemment, il y a au niveau des moyennes, des normes qu'on véhicule dans les magazines à potins, par exemple.
Mmh. Ou même dans la mode, pour le dire comme ça, doucement. Et dans la mode, on a tendance quand même à véhiculer un certain corps ou enfin certains modèles difficiles à atteindre.
Mmh. Oui, absolument. Et même il y a un risque même d'aller dans la diversité. Pourtant, c'est ce que je prends.
Ouais.
Évidemment, l'acceptation de la diversité sexuelle, mais il faut faire attention pour rejoindre ton idée, Benoît, de pas que ça devienne une mode, de dire aux jeunes, c'est pas grave si vous connaissez pas votre sexualité, elle peut être divergente. Mm-hmm. Oui, elle peut être divergente, c'est tout un continuum, mais il faut faire attention de bien se connaître et d'accepter ses propres limites.
Ouais.
Donc oui, ça rejoint effectivement la performance.
Donc il faut dire non à la performance, c'est dire oui à qui on est un peu plus fondamentalement. Est-ce que ça vous parle, ça, Nicole Bordelot?
Oui, mais on est dans une société qui prône le dépassement de soi à outrance.
Ouais.
Hein? On nous incite à cuisiner comme des chefs, à décorer, à danser comme des stars, puis à décorer comme des architectes. Donc, bien entendu, c'est sûr que ça va toucher aussi la partie la plus intime, notre sexualité. Mais c'est là où chacun d'entre nous, on doit faire un retour vers l'intérieur. On est très porté sur le monde extérieur et aller chercher les messages et les codes de conduite. Et ce retour vers soi, ce retour vers cette partie plus intime de soi, je pense qu'on peut y faire confiance.
Ben, vous voyez, vous avez une alliée. Donc, on se fie à notre intériorité, à nous-mêmes. On essaie de déconstruire ce qu'on a dans la tête. Par contre, j'avais envie de voir avec vous, c'est quoi l'organe important en sexualité, celui dont vous parliez déjà, Sonia?
Oui, effectivement, je lancerai la question à Mme Sanquet et aussi à votre invité pour savoir, selon elle, quel serait l'organe du corps humain le plus important au point de vue sexuel?
Le cerveau.
Ah!
C'est certain, c'est lui qui dicte ma réalité. Donc,
Absolument. Je savais que vous trouveriez la réponse.
Il y a un terme, Sonia, je me souviens pas ce que... Il faut vraiment le retrouver, où on est amoureux ou amoureuse du cerveau avant d'avoir une sexualité.
Ah oui.
Il faut que je le retrouve, ce terme-là,
les
scientifique. Sexuels. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe et qu'il y a comme un état de se dire qu'au niveau du cerveau, ça va très bien. Donc, la sensualité et la sexualité va aller de pair.
Mais les sapiens sexuels ont une préférence, mais c'est aussi un état parfois dans des relations. Il y a des gens dont on tombe amoureux d'abord à cause de leurs idées, leur manière de le défendre. En tout cas,
ce qu'on projette sur eux.
Aussi, bon, ça c'est notre cerveau. Mais Sonia Boucher, donc le cerveau, vous, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que c'est cet organe-là qui est important dans la sexualité?
D'abord, on sait de plus en plus que la mémoire n'est pas située à un seul endroit dans le cerveau.
Ah,
on
sait
qu'elle s'étend à plusieurs endroits. La mémoire des événements sexuels prend beaucoup de place dans un épanouissement de la sexualité. Mmh. C'est-à-dire que même deux partenaires sexuels pour qui ça va bien leur relation, ça va bien mécaniquement au niveau biologique, tout répond bien au niveau sexuel, mais qui ont eu des expériences négatives, le cerveau va enregistrer ces expériences-là et les émotions ressenties, le contexte va réapparaître à un moment donné dans une autre relation sexuelle, même si c'est un partenaire différent. Donc, c'est important de comprendre le mécanisme, comment ça s'inscrit chacune de nos relations sexuelles.
Ah ouais.
D'ailleurs, souvent, les premières relations sexuelles qu'on a à l'adolescence, pour lesquelles on retire du plaisir ou plus négativement des traumas, des traumatismes, vont refaire surface de façon automatique pendant la vie adulte.
Et ça, c'est important.
C'est-à-dire qu'on reproduit? C'est-à-dire que les premières expériences sexuelles comme adolescents, on les reproduit tout au long de notre vie, quoi?
Ou on les ressent? On les ressent.
Ben, il faut du moins y réfléchir et les travailler. Donc, je ne dis pas que c'est automatique, mais une personne qui ne prend pas la peine de dire comment je me suis sentie, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui est passé, remettre le contexte en perspective aussi. Est-ce qu'il faut réfléchir au contexte, comment ça s'est passé? On a tendance à oublier ça dans la sexualité. Et bien sûr, tout le mouvement social.
Mais oui.
Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qui va s'imprégner au fil des ans dans différentes régions du cerveau. Donc, pas juste les normes, mais aussi la morale.
Oui, parce qu'en fait, donc, dans notre cerveau, dans notre être, cohabitent des expériences purement sexuelles, mais des expériences tout à fait sociales. C'est ce que vous dites, puis ça se mélange un peu tout ça, non?
Exactement. Merci, Benoît. Toujours un fin verbalisateur.
Non, mais on se connaît bien, Sonia, c'est pour ça.
Mais, donc effectivement, c'est ce qui s'inscrit, c'est ce qui se passe, mais c'est ce qu'on accumule aussi comme expérience et comme je disais, comme connaissance.
Et donc, toute cette espèce de bagage sexuel-là, on fonctionne avec quand on est avec l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en concluant qui s'arrimerait peut-être à l'histoire de notre invité dans une sexualité pas trop, pas dans la performance, plus connecté sur soi?
Bien, effectivement, le mot-clé ici, c'est la connaissance sur soi, mais sur soi dans sa globalité. Donc, de ne pas statuer uniquement, par exemple, sur le physique pour éviter l'anxiété de performance. Donc, si j'ai tel physique, je vais réussir telle position sexuelle.
Ouais.
C'est pas nécessairement vrai. C'est toute une question de bien se connaître et de bien se connaître dans son univers social. Donc, pourquoi, quand j'ai tel comportement, ça me satisfait moi, mais je sens un malaise.
Ouais.
Ça vient. Donc, c'est dans ce sens-là de, oui, bien se centrer sur soi-même, mais dans sa globalité.
Alors, c'est un mot d'ordre et on dirait que Sophie a envie d'intervenir en toute instance.
Je trouve que finalement, c'est toujours difficile de mettre de côté notre cerveau, même dans la sexualité. Je veux dire, il y a l'appel du corps qui est là, mais le cerveau est toujours là.
Toujours.
Il y a toujours une espèce d'analyse avant, pendant, après. Oui. Il y a le plaisir, mais le cerveau, il y fait encore beaucoup pour quelque chose, hein, Sonia?
Oui, absolument. Bon, c'est pour ça que je reviens à la question, quel est l'organe le plus important? Donc oui, c'est le cerveau, c'est notre stockage, c'est nos connaissances. Ça fait partie de nous-mêmes, donc il ne faut pas l'oublier.
Alors, on promet qu'on va mettre sur le site une photo de cerveau, et là, il y aura plein de clics, un trafic Internet extraordinaire, comme dans certaines occasions. Alors,
cerveau sexuel, on va trouver un thème, un hashtag.
Alors, Sonia Boucher, rappelons que vous êtes sexologue à domicile, sexologue aussi, spécialiste des droits sexuels. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Sonia.
Un grand plaisir. Bon après-midi, mesdames.
Bon après-midi.
Merci, Benoît. Au revoir.
Au revoir.
Je ne suis plus comme avant, je ne suis plus comme hier. changé, mes tourments ne m'ont jamais quitté. Simplement, maintenant, avec le temps, je comprends. Je ne suis plus la même. On fait tous des erreurs, on porte tous des chaînes. Dans le cœur, y a pas de vie sans peine. Simplement, maintenant, avec le temps, je comprends.
Alors, on va parler tout de suite avec notre chroniqueuse Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour Claudine.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, oui. Notre invitée nous parlait en début d'émission des problèmes qu'elle a eu à dormir. C'était toujours difficile. Elle a dû travailler beaucoup. Maintenant, elle aide les autres à bien dormir, à savoir relaxer. Alors, est-ce que, Claudine, est-ce que c'est vrai que le sommeil, nourriture de l'esprit, ça va ensemble? Comment est-ce qu'il y a une nourriture de l'esprit pour mieux dormir? Comment ça va à ce niveau-là?
Ben écoute, Oui, c'est tellement un sujet intéressant parce qu'effectivement, le sommeil, c'est essentiel pour pouvoir bien utiliser les nutriments qu'on va consommer dans la journée et vice-versa. Il faut aussi bien manger pour bien dormir. Fait que c'est comme un travail d'équipe, en fait. Puis c'est quelque chose que les gens ne savent pas à la base. Donc, souvent, les gens vont souffrir d'insomnie. Puis je dirais que, de mon expérience depuis 10 ans, la majorité du temps, 90 % du temps, les gens vont souffrir d'insomnie simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne alimentation, en fait, qui est assez soutenante pour pouvoir permettre la récupération pendant la nuit.
Est-ce que c'est une fausseté ou une vérité de dire que la nourriture peut provoquer les cauchemars?
Mais je pense pas, en fait. Puis c'est, je vous avoue que j'ai dû faire un peu de recherche parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on se questionne beaucoup. Mais en fait, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que, il y a l'aspect beaucoup physique de digérer les aliments en tant que tels. Et certains aliments vont, vont un peu plus déranger la digestion, ce qui va nous faire faire des cauchemars. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'ai trouvé dans l'étude, en fait, que j'ai étudiée avant de faire notre chronique, c'est que le corps veut, en fait, nous dire qu'il n'est pas bien, donc va nous faire faire des cauchemars.
Ah, donc c'est le corps qui est pas bien, qui est pas et qui dit, qui va faire qu'on va faire des cauchemars, ou c'est des choses qu'on n'a pas réglées, ou le mélange des deux?
C'est vraiment une combinaison des deux. Notre corps est tout le temps, il est toujours en train de nous dire physiquement et émotionnellement ce qui cloche, ce qui va bien et ce qui cloche. Puis il semblerait que les cauchemars, en fait, sont une bonne façon pour le corps de nous dire ça va pas. Cet aliment-là ne me fait pas, ou il y a des choses justement qu'on n'a pas réglées pendant la journée, on est trop stressé, on est trop fatigué, etc., etc.
Alors, est-ce qu'on a fait une analyse scientifique à savoir si on mange mal, on va forcément avoir des cauchemars ou pas du tout? On ne sait pas de ce côté-là.
Non. Non, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été démontrées. Il y en a une en particulier en 2005 en Europe qui a été faite plus par rapport aux produits laitiers parce qu'il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient justement de cauchemars suite à l'ingestion de produits laitiers. Donc, la compagnie qui a soumis cette étude-là s'intéresse aux produits laitiers. Vraiment, démystifie finalement, il y a une problématique. Et finalement, oui, il y aurait une problématique au niveau plus des produits laitiers, mais on sait qu'à la base, les produits laitiers dérangent beaucoup de personnes et que si on est stressé, si on est anxieux, c'est quelque chose qui cloche, on est plus sensible au fameux lactose de toute façon.
Alors,
On a
deux intervenants. D'abord, Nicole Bordelot et puis notre docteur Baruel qui veulent réagir là-dessus. Oui, Nicole.
Mais peut-être que Claudine est sûrement au courant. Là, l'Université Harvard vient de retirer les produits laitiers de son guide alimentaire. C'est tout récent. Là, donc, c'est quand même...
Ça veut dire qu'on n'est pas des vaches, comme on dit.
Voilà.
Docteur Bart, il faut bien qu'on...
Mais c'est vrai, parce qu'on est quand même des humains qui buvons du lait
c'est
de
ça,
vache.
C'est ça, on n'a pas plusieurs estomacs. Alors, docteur Baruel...
Oui, bien sûr.
Oui, vous avez voulu réagir là-dessus, docteur Baruel?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le lactose peut provoquer, en effet, des troubles digestifs du genre ballonnement ou nausées, etc., qui peuvent entraîner des cauchemars, mais la plupart du temps, les cauchemars, on les connaît, c'est souvent une remise en place ou une incorporation de certains éléments de la journée ou même des années précédentes. Voir les cauchemars récurrents, qui sont souvent des cauchemars qui sont à l'occasion d'un traumatisme quelconque, un traumatisme. Je crois que c'est surtout une question de cerveau, beaucoup, et de la vie quotidienne. Qui provoque les cauchemars, c'est ça.
Alors Claudine, au niveau des 8 heures de sommeil, parce qu'on dit toujours que 8 heures, c'est ce qu'il faut, hein, minimalement, mais ça dépend des personnes, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du système digestif?
Bien, en fait, là, juste pour un petit peu spécifier à ce niveau-là, la moyenne d'air qu'on a besoin pour l'adulte. En autant qu'on complète des cycles de 1h30, c'est ce qui nous permet de bien récupérer. Donc, on va dire 6h, 7h30 ou 9h. Ce sont vraiment des bonnes moyennes pour l'adulte. Et ce qui arrive, c'est que pendant ce temps-là, on a vraiment le temps de récupérer, de permettre au corps de se calmer, permettre aussi d'optimiser l'absorption des nutriments qu'on a consommés pendant la journée. Parce que souvent, quand on est en action pendant la journée, c'est pas nécessairement optimal toute cette digestion et cette absorption des nutriments-là. Donc, en soirée, quand on dort, c'est vraiment un bon moment pour le corps de le faire.
Mm-hmm. Une question qu'on se pose très souvent, parce que bon, moi, ma mère me disait ça. Est-ce que c'est vrai, un repas de prince le matin, de roi le midi et de canari le soir? Est-ce que c'est toujours vrai, ça, pour s'assurer de bien dormir?
Bien, en fait, ça, encore une fois, c'est très unique à chacun. Je veux dire, il y a des gens qui vont s'entraîner en début de journée, par exemple. Il y a des gens qui vont s'entraîner en soirée. Il y a des gens qui vont être plus actifs durant la journée, des fois, des gens plus actifs en fin de journée, dépendamment des corps de travail, par exemple. Donc, je pense que ça va surtout dans le même sens de notre dépense énergétique principale. Je pense pas que des gens qui vont manger un gros déjeuner vont nécessairement se sentir mieux que d'autres qui vont manger un repas qui va être quand même assez important en fin de journée. Ça dépend des métabolismes. Mmh. Ce qui est important, c'est de bien carburer à travers la journée et de répondre à ses besoins, n'est-ce pas? C'est pas nécessairement un repas qui va vraiment déterminer si, justement, on va bien dormir ou pas. Puis Dr. Barwell va probablement valider cette information, mais il y a aussi des gens qui vont souffrir de reflux gastrique, par exemple. Mm-hmm. Donc, le soir, c'est pas un bon moment pour eux de manger un repas qui va être plus copieux. On va manger plus léger. Donc, c'est vraiment du cas par cas.
Petite soupe, hein? Le soir, une petite soupe, c'est toujours bon, ça.
Ça me faisait plusieurs fois que j'entends parler de cette soupe du soir. Je pense qu'il faut la prendre ensemble, Sophie.
C'est vrai, non? C'est quand même mieux, ouais. Ça, mais une soupe
mais
consistante.
Chaud, absolument. Ouais. Et puis, c'est chaud, c'est réconfortant, ça calme le système aussi. Hein, donc, c'est sûr que c'est bon, une bonne soupe.
Oui. Merci, Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Merci.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Alors, la méditation, elle a publié 12 livres et puis elle a des CD là-dessus. Depuis le début de l'émission, Nicole Bordeloup nous parle des bienfaits. Et il y en a, mesdames, messieurs, des bienfaits. Alors, méditer, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le cœur. C'est en même temps, c'est une philosophie, devenu presque une religion. Il y a des études scientifiques qui disent que ça calme le système nerveux, qu'en fin de compte, ça diminue les douleurs. Évidemment, ça éloigne le stress et cultiver son intériorité, eh bien, a vraiment c'est très, très, très bénéfique pour l'être humain. Et méditer, ça coûte rien, vous pouvez le faire de 7 à 77, à 80, à 100 ans. Mesdames, messieurs, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe aussi pour débuter. Et puis, le temps varie, hein, selon le temps qu'on a. On peut commencer avec une méditation, quelques minutes en se levant, y aller le soir. Alors ça, c'est aussi génial, ça coûte rien. Et il y a 60 000 pensées qu'on a par jour à chasser dans notre cerveau. Donc, la méditation sert à quelque chose. Méditation veut dire aussi respiration, de savoir respirer, parce que, mesdames, messieurs, bien souvent, on ne sait pas respirer et ça aide beaucoup à replacer ses chakras, ses pensées et éloigner le stress. Et pour l'instant, au Québec, on ne peut pas, parce que je vous le disais, ça se fait soit en privé où les gens vont dans des groupes, mais on ne peut pas mettre de chiffres exactement. Mais j'ai vu un petit 2% de la population québécoise qui méditerait vraiment d'une façon régulière. Et il y a eu d'ailleurs une rencontre dernièrement où il y a eu au-dessus de 7000 personnes qui se sont rejoints pour aller méditer en groupe. Ça doit être fantastique. Et ça va en grandissant. Alors, au niveau des chiffres, on n'en a pas trouvé, mais on en entend parler. Et parfois, les gens ne le disent pas, mais ils le font. Et ce qui est fantastique, mesdames, messieurs, c'est que maintenant, dans les écoles, dans certaines écoles, les professeurs, avant de commencer les cours, vont faire un 5 minutes, un 10 minutes de méditation. Et on nous dit, dans les professions, les gens sont formés pour aller dans des industries. Et la première profession où ils ont le plus besoin, c'est dans les finances.
Ah oui.
Alors là, c'est des gens qui, même il y a eu des médecins.
Même au-delà de la santé.
Même au-delà de la santé.
Ah ben, je suis sûr.
Ceux qui travaillent dans les finances, les directeurs vont faire appel à des professionnels et ces gens-là vont faire des séances de méditation. Mmh. Et dernièrement, il y a certains médecins qui ont été obligés dans leurs cours de prendre des cours de méditation. Alors ça, c'est une voie vers une ouverture à ce niveau-là. Donc, la méditation, vous le faites depuis combien d'années?
26 ans maintenant, mais une petite précision. La méditation comme telle diminue la perception de la douleur. Donc, c'est une petite précision, mais elle vient de l'Université McGill, donc c'est important de voir, parce que les gens disent, est-ce que c'est la douleur même qui diminue ou on sait que le cerveau perçoit.
La perception de la douleur
qui varie avec les gens qui méditent et ceux qui ne méditent pas. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que le mot méditation vient des mêmes racines latines que médicament et médecin. Donc, un médecin prête attention à son patient, un médicament, entre guillemets, prête attention aux symptômes d'une maladie, d'une pathologie. Et la méditation, c'est prêter attention à son esprit. Donc, et là, les recherches sont claires. Il y en a plus de 600 répertoriés où 20 minutes par jour, ça peut être divisé en 10 minutes deux fois par jour ou 5 minutes quatre fois par jour. À l'intérieur de 6 à 8 semaines, déjà, le cerveau, on voit au niveau neurologique qu'il y a une distinction entre ceux qui méditent et ceux qui ne méditent pas. Alors, les recherches scientifiques, maintenant, appuient ce que le Bouddha a enseigné il y a 2600 ans. Est-ce que les gens pouvaient vivre sans pouvoir le nommer? Donc, maintenant, on a tout ça. Puis ici, à Montréal, c'est fabuleux, là.
Ah oui, c'est avec l'université de... C'est une mecque du yoga, soyons honnêtes.
Il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup. Mais alors, comment... Il y a quelqu'un qui vous écoute en ce moment et qui se dit, mais moi, j'aime beaucoup Nicole Bordelot, j'ai lu ses livres, mais j'aimerais ça essayer. Comment on fait? Est-ce qu'on ferme la lumière? Est-ce que les mantras, on se répète des mots? La première méditation pour une débutante, ça a l'air de quoi, Nicole?
Ah, il y a plusieurs façons de méditer. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Votre corps sait comment respirer, digérer. Votre esprit sait comment méditer. Dans un premier temps, vous devez vous défaire des fausses illusions qui sont, c'est faire le vide de l'esprit. Si je continue à penser, c'est parce que je ne suis pas en méditation. C'est faux. Donc, votre esprit n'arrêtera pas de produire des pensées parce que vous entrez en état méditatif.
Mais ça, c'est presque un enseignement du bouddhisme qui nous dit ça, de faire le vide. C'est une prescription pratiquement religieuse.
Le bouddhisme ne dit pas ça. Le bouddhisme dit, regarde défiler tes pensées et ne t'identifie pas à ce qui traverse ton esprit. On n'a jamais vu... Non.
Donc, on fait le vide?
Non, on ne fait pas le vide.
On
fait la paix avec le fait.
Mais quand on dit fait le vide, moi, je veux dire, ce soir, il faut que je sorte les poubelles, toutes ces pensées-là, on essaie de les chasser.
C'est ça. Mais si vous essayez de les chasser, elles ne vont faire que revenir et créer de la frustration en vous. Quand vous regardez un film à la télé, vous essayez pas d'intervenir dans les scènes, vous essayez pas de dire à tel et tel acteur quoi dire. C'est la même chose en méditation. Vous vous asseyez confortablement, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir comme un yogi. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, vraiment. et simplement, prenez quelques profondes respirations pour vous apaiser intérieurement, pour détendre le corps. Puis simplement, observez ce qui est. Vous pouvez commencer par observer et écouter les sons autour de vous.
On ferme les yeux?
On peut les fermer ou pas. Dans certaines écoles de méditation, les yeux sont mis ouverts. Donc, si quelqu'un a un grand déficit d'attention, de fermer les yeux parfois peut aider. Pour d'autres personnes, c'est une instruction qui peut être angoissante. Donc, il y a différentes façons de le faire. Mais votre esprit va continuer de penser, de produire des pensées. Et les gens disent « je pense plus quand je médite ». C'est faux. Là, vous réalisez que votre esprit produit presque 60 000 pensées par jour.
Oui.
Et simplement les regarder défiler comme on regarderait défiler des nuages dans le ciel. Et pour être capable de regarder défiler nos pensées, Sophie, sans être kidnappée par leur charge émotionnelle, il est bon d'avoir ce qu'on appelle un ancrage. Un ancrage peut être notre respiration, le mouvement de notre souffle, sur lequel on va porter une attention, avoir un mantra, une voix extérieure qui nous guide.
Alors, un mantra, peut-être les gens ne sont pas au courant. Moi, je suis au courant, mais peut-être expliquer, Nicole, ce que c'est qu'un mantra.
Un mantra vient des mots « ma » pour « mind », notre esprit, « tra » pour « entraîner ». Donc, un mantra est un mot, un son, une phrase qui nous permet, à force de répétition, de garder notre attention dans l'instant présent. Donc, un mantra pourrait être... Il y a un très, très beau mantra qui est enseigné par Thich Nhat Hanh, ce grand maître bouddhiste. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Mmh. C'est beau, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Mmh. On ne fait que répéter ça très doucement, on glisse ça à l'intérieur de nos souffles. Et généralement, à l'intérieur de 5 minutes, déjà, on voit un changement.
Alors, juste avec cette phrase-là, on va la mettre sur le site, si vous vous permettez, Nicole Bordelot, pour que les gens puissent commencer, les débutants qui écoutent et voient 10 minutes, 10 minutes, 2 fois par jour à peu près.
Ah oui, commencez par de courtes séances pour pas que l'esprit se rebiffe. Si vous croyez méditer 1 heure par jour au début, vous allez vous saboter, bien entendu. Donc, moi, je recommande à ceux qui viennent méditer avec moi, commencez par 10 minutes. 10 minutes sur 24 heures. Si vous n'avez pas 10 minutes sur 24 heures, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas de vie. Donc, alors, on a tous 10 minutes. Alors, on s'assoit 10 minutes, on prend 10 minutes pour soi. Puis, en fin de journée, Sophie, c'est ce 10 minutes-là dont on se rappelle souvent.
Merci.
Petit matin sans horizon, petit café fumé d'usine, je regarde le derrière des maisons, les femmes sont à leur cuisine, y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone et dans l'œil crevé de ma cour. Un 747 qui résonne, il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre à mer. Slash un collier de perles. Au hasard j'ouvre le journal, crime passionnel rue Lacordaire, paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer. Grand-mère, et pour les mots, je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses.
notre médecin, pas comme les autres, qui aiment entendre durant toute l'émission ce que les spécialistes, que notre invité aussi envie de dire, et termine avec son statut de médecin, stomatologue. Bonjour, docteur François Baruel.
Bonjour, Benoît.
Et il y a un épisode important, marquant dans la vie de notre invité, Nicole Bordelot, qui a un peu fait basculer, fait changer sa vie, c'est l'hépatite C. Pour que les gens comprennent bien ce que c'est, expliquez-nous là, d'une manière le plus médicale possible ce qu'est l'hépatite C.
Alors, pour bien comprendre ce que c'est que l'hépatite C, c'est une hépatite qu'on appelait en effet avant non A, non B, mm-hmm. pour dire qu'en effet, elle n'avait pas les mêmes effets. L'hépatite A, c'est une hépatite qui est bénigne pratiquement dans 99,9% des cas. Mm-hmm. L'hépatite B, elle est aussi bénigne, mais un peu moins bénigne, mais tout se passe bien. Avec l'hépatite C, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est qu'au bout de plusieurs années, on a quand même de 20% de risque d'avoir apparaître une cirrhose.
Ah oui, c'est surtout la cirrhose qu'on craint en fait.
C'est la cirrhose qu'on craint d'abord. Mm-hmm. Et dans les 10 à 15% des cirrhotiques, mm-hmm. on voit apparaître parfois des cancers du foie. Mm-hmm. Et là, c'est évidemment beaucoup plus embêtant.
Donc, c'est vraiment le foie qui est attaqué. C'est cet organe-là qui est mis à mal par l'hépatite C.
C'est ça. Mm-hmm. C'est le foie qui est attaqué.
Avant de penser à comment on vit avec l'hépatite C, parce qu'il faut dire que notre invité a trouvé les meilleures façons hein, pour vivre. Mais avant, comment on contracte l'hépatite C? Et s'il vous plaît, déboulonnez quelques mythes au passage, Dr Baruel.
L'hépatite C, on peut la contracter avec... En fait, c'est sanguin. Hein. Mm. C'est par voie sanguine.
Voilà, OK.
De toute façon. C'est un germe qui est quand même assez résistant, hein, malgré tout. Donc, ça peut se transmettre par une plaie sur une main ou avec une autre main. Ça peut se transmettre sexuellement lorsqu'il y a des rapports un peu hard. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Ça peut se transmettre par une paille. Une paille de cocaïne, paille métallique.
Hein. OK.
S'il y a
dans le plastique, c'est plus... Je suis désolé d'être aussi précis, là, mais dans le plastique, ça conduit moins, ça garde moins longtemps le germe actif.
C'est moins agressif.
OK.
Tandis que la paille métallique, elle peut être agressive sur la muqueuse nasale qui est
l'argent?
Inflammatoire.
Et l'argent?
L'argent.
L'argent, est-ce que c'est un... Ça peut bien
c'est
transmettre?
C'est pas un désinfect... Oui, mais de toute façon, c'est... La paille en argent.
Oui.
Oui, tout à fait. Ah. C'est métallique, ça peut irriter.
Non, je parlais avec.
Toi, tu parlais d'un billet.
Oui,
un billet qu'on roule.
Avec un billet qu'on roule, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, okay, ça fait. Bon, comme dans
tu
les films.
Tu poses la vraie question.
Et sinon, on y va parce qu'on s'adresse à une multitude de gens. Il ne faut pas présumer.
Tout à fait.
Et donc, comment on contracte, c'est par ces voies-là le plus souvent? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est toujours de la même manière? Il n'y a pas de mutation, là. L'hépatite C reste ce qu'elle est ou...
Ah non, apparemment l'hépatite C n'a pas bougé, c'est toujours le même, okay. le même virus. Et par contre, c'est le traitement qui a changé.
Ah, voilà.
Le traitement, au moment où Nicole a découvert son hépatite C, le traitement était épouvantable. Épouvantable.
Ouais.
Ça durait un an, enfin 48 semaines. C'était tellement difficile que la grande majorité des gens ne supportaient pas. Donc, ils n'allaient pas jusqu'au bout.
Est-ce que vous iriez à comparer à la chimiothérapie ou est-ce que
c'est une
substance? Oui, c'est une forme. Les ravages sur le corps peuvent être dévastateurs et demeurer longtemps. Là, donc.
Ouais.
Donc, vraiment, c'est un traitement qui visait à détruire les cellules pour éviter la croissance de l'hépatite C. Okay.
Maintenant, le traitement, c'est celui qui empêche la réplication des virus. Et lui, il dure maintenant très peu de temps. Il dure 12 jours, ou maintenant c'est 12 jours, et c'est assez bien toléré maintenant.
Mais c'est heureux quand même, il y a quelques avancées qui nous ont aidés. Mais donc, il ne faut pas oublier les vaccins, hein, parce qu'évidemment, quand on est à l'école, par exemple, on propose des vaccins. Est-ce qu'on doit être pour, on doit être contre? Ça serait quoi la meilleure attitude face à ces vaccins contre l'hépatite C?
Il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite, c'est okay. malheureusement.
C'est contre A et B, c'est
oui,
ça.
Oui, contre A et B, on les a. Et ça, il faut dire qu'il faut, c'est une mesure de santé publique. Il faut faire les vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B, c'est certain.
Mais il manque celui
Mais il manque celui de l'hépatite, l'hépatite C. Absolument.
Okay. Ouais. Est-ce, vous savez si les recherches évoluent ou ça va comment?
Pour le moment, j'en ai pas entendu parler.
OK.
Mais elles évoluent au niveau de la médication, ça voilà, c'est certain, déjà, au niveau des traitements, déjà. Puis au niveau aussi de tout ce que l'on sait sur l'hépatite C. Donc, mais on est rendu maintenant à l'hépatite G, je crois. Donc, ça, il y a plusieurs virus là, qui...
Ah ouais, donc il y a plusieurs déclinaisons qu'on connaît
bien
moins.
Mais oui, bien sûr. Ça, ce sont les hépatites les plus fréquentes.
Ah oui, pour vrai? Ah ouais.
Voilà, donc A, B et C. Mm-hmm. Mais après, il y a toutes celles qui sont moins fréquentes et qu'on classifie. Hein, qu'on
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans votre histoire, Nicole Bordelot, c'est qu'au-delà du défi physique que ça représente, avec lequel vous avez assez bien composé, il y avait à l'époque vraiment l'aspect social. Là. C'est ça qui était déterminant quand on avait l'hépatite. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une persistance, qu'il y a des gens encore qui
vous
en
parlent? Non, je ne crois pas. Non, parce qu'il y a eu tellement d'éducation qui a été faite à ce sujet-là. Peut-être pour certaines personnes, certains individus, mais au niveau social, au niveau du Québec, en tout cas, je peux parler seulement pour le Québec. Non, je ne crois pas que ce soit la même perception. Aujourd'hui, on comprend mieux ce que c'est, on comprend mieux comment on peut la contracter, comment se protéger, comment non plus ne pas la partager. Donc ça a beaucoup aidé à rassurer les gens.
Ouais. Mais docteur Baruch, vous achetez la même chose? Est-ce qu'il y a des gens qui vous posent la question, des inquiétudes par rapport à l'hépatite C ou vous sentez que ça a évolué un peu?
L'hépatite C, c'était considéré en effet comme le sida à un moment. C'est exact, c'était parfaitement ce que disait Nicole. Et maintenant, les gens connaissent, les patients connaissent les modes de transmission. Ils savent que c'est sanguin, ils savent que... Alors, en effet, il y a toujours l'histoire de les larmes.
Ouais.
Est-ce que les larmes, la salive, la sueur, etc. Ça, ce sont des vieux fantasmes qui existaient déjà en 1985, qui persistent encore. Mais bon, mais la plupart du temps, les gens savent très bien comment ça se transmet.
Et malheureusement, le scandale du sang contaminé a diffusé beaucoup d'informations qui a pu être valable. C'était terrible, ce scandale-là, mais on a beaucoup appris à travers cette expérience.
C'est une forme de traumatisme social qui a au moins changé, parce qu'on voyait des gens là, qui appartenaient à la grande diversité, là, c'est-à-dire on ne sentait pas qu'il y avait qu'un groupe de personnes qui étaient touchées, et ça, c'est sûr que ça a aidé au niveau social. On se fait un thème musical et on reste pas très loin de vous, Dr. Baruel.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Alors nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nicole Bordelot, on veut toujours savoir comment nos invités se sont sentis, comment vous avez aimé les chroniques et qu'est-ce qui vous a allumé, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a...
Justement, c'est ce que je disais hors micro, que le fait que vous offriez ce genre d'émission une fois semaine, je trouve que ça donne une voix, un visage parfois à des maladies qui peuvent nous toucher, des états mentaux ou peu importe. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces voix-là qui viennent se porter et qui rendent l'émission tellement riche. C'est utile ce que vous faites, donc je suis vraiment heureuse d'en faire partie.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris, que vous avez une autre perception, qu'un de nos chroniqueurs ou chroniqueuses a parlé de quelque chose qui vous appelait ou...
Tout le long de l'émission, mon sentiment, c'est à quel point l'être humain est complexe. Mmh. Hein? On ne peut pas parler de lui physiquement ou d'elle physiquement ou parler d'une pathologie ou d'une maladie. L'être humain est complexe et je crois qu'on ne on se connaît pas complètement encore et que la science va continuer de nous informer sur notre corps, mais il y a encore plein de domaines, de dimensions, la dimension spirituelle, la dimension émotive, la dimension méditative, contemplative. Tout cela, là, on risque d'avoir encore d'extraordinaires découvertes à faire.
Et même à l'émission, il y a aussi, on reste dans le médical, mais c'est un médecin un peu pas comme les autres. Hein?
C'est donc, un médecin extraordinaire.
C'est un médecin extraordinaire. Vraiment, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous demande, chère Madame Bordelot, on vous demande de lui poser la question que vous avez jamais osé poser à votre médecin. Mm-hmm. Allez-y.
Ah, j'aimerais vous poser comme question dans un métier, une vocation qui parfois va tellement, tellement vite, où vous êtes sollicité continuellement, où les heures sont longues, parfois la fatigue entre en ligne de compte, le stress, etc. Quelle est la part de la compassion dans la prescription ou dans la rencontre que vous faites de vos patients? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'emblée ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, que vous apportez d'une façon plus consciente? Comment est-ce que ça se vit, la compassion, pour la personne qui est devant soi?
La réponse n'est pas très simple, hein, parce que soit on parle pour soi ou bien alors au nom de tous les groupes médicaux.
Vous, je suis intéressée par
ça. Moi, c'est plutôt la compassion, c'est d'emblée en fait, puisque je suis toujours intéressé par les gens en fait. Donc c'est passionnant d'entendre quelqu'un parler, d'entendre quelqu'un raconter même son histoire avec tout ce qu'elle a vécu, avec toutes ses souffrances et même comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir elle-même. Je trouve ça absolument passionnant. Donc c'est vrai que la compassion fait partie du contact du médecin, du malade, mais de toute façon, de tout humain. Donc je pense que c'est la compassion est de toute façon un élément supplémentaire et nécessaire pour pouvoir avoir une adhésion au traitement.
Ah, c'est ça. C'est là que ça m'intéresse.
Mais oui, pour une adhésion au traitement, le suivi du traitement, le réglage du traitement et obtenir l'efficacité maximum.
Voilà.
C'est absolument indispensable.
Ça fait partie de la prescription.
Oui, oui, tout à fait.
Bon, on peut même inviter les gens à écouter à canalm.vusezvoix.com. Il y a une entrevue extraordinaire du docteur Baruel sur la compassion à l'émission. Ah. Emmanuel avec un M et deux L, hein, c'est ça? Oui. Donc, recherchez là à canalm.vusezvoix.com. Et sinon, on peut remercier notre
invité. Toute l'équipe, alors. Merci, Nicole Bordelot.
Ce fut un grand plaisir.
C'était vraiment très agréable. Et puis, on va continuer à vous lire, à vous écouter dans vos différents CD. Et puis, il y a plusieurs personnes qui vont sans doute commencer à faire leur première méditation grâce à notre émission aujourd'hui, parce que ça nous a donné envie d'en faire, juste oui, et de voir que c'est facile d'y aller et de faire un petit 10 minutes par jour. Merci
voilà.
beaucoup.
Ce qui est même impressionnant, c'est que moi, j'ai envie de d'en faire tout de suite. Vous avez réussi. En tout cas, chose certaine, vous êtes très disponible aussi à l'humain. C'est ce qu'on apprécie. On remercie tout le monde qui est venu à l'émission. Portez un peu plus votre voix encore. On pense ici à Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Sonia Boucher, sexologue à domicile. Alain Ponkin, théologien. Et aussi notre bon docteur, François Baruel. Merci d'être là, toujours avec nous.
Et merci à notre équipe, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon à la recherche.
Qu'on se le dise, on peut prendre un temps d'arrêt pour méditer, pour la santé.
Ici Sophie Stanquet
et Benoît Racette.
C'est bon pour la santé!